présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire Vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, un aperçu des manifestations prévues pour commémorer l'année 1942. 1942 est une année clé dans la mise en œuvre du génocide des Juifs d'Europe par les nazis. C'est l'année de l'assassinat de plus de 2,5 millions de Juifs et c'est en France le moment de la collaboration de l'État vichiste avec l'Allemagne et des grandes rafles, puisqu'entre mars et novembre 1942, ce sont 43 convois avec 42 000 Juifs déportés qui quittent le territoire. Mais 1942, c'est aussi de fait l'année où les consciences se sont éveillées, pour aider, cacher et surtout résister. C'est pourquoi, le 27 janvier, Marc Laffineur, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, et Éric de Rothschild, président du Mémorial de la Shoah, lors de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, ont présenté les cérémonies et manifestations commémoratives qui seront organisées tout au long de l'année 2012. Avec les associations des fils et filles de déportés. Cette année verra donc de nombreuses conférences, colloques, débats, commémorations, expositions, dont les Juifs de France dans la Shoah, mises en place par le mémorial, qui va tourner dans toute la France et dont le livre de Jacques Fredge, que nous recevons aujourd'hui et qui dirige le mémorial, est un fidèle reflet. Bonjour.
Bonjour.
Alors peut-être pour commencer, vous pouvez nous parler de ce donc, grand livre qui est paru chez Gallimard l'année dernière, qui reprend la trame de l'exposition permanente du Mémorial de la Shoah à Paris, et nous dire pourquoi avoir décidé d'en faire un livre.
Alors pour être tout à fait honnête, je dois vous avouer que ça aurait dû être le catalogue de l'exposition que nous avons ouverte en 2005. Et parce que nous avons été pris par des dizaines de projets et d'autres priorités, ce catalogue n'a jamais vu le jour. Et bien évidemment, il nous manquait, il était réclamé par le public. Et lorsque, pour une conversation, j'évoquais avec Gallimard la possibilité de créer ce catalogue, l'idée est venue d'eux. En fait, ils m'ont dit non, un catalogue d'une exposition qui a été inaugurée en 2005, ça n'a pas de sens. Par contre, il y aurait un vrai besoin pour créer un livre illustré et grand public sur cette thématique. Alors, on est parti de cet objet, c'est-à-dire que eux pensaient un livre illustré, moi je pensais un catalogue avec un contenu un petit peu plus fouillé, donc on a coupé la poire en deux, puisque il y a à la fois beaucoup de textes, et en même temps plus d'un millier de documents, de photographies, qui en effet, par contre, sont complètement le reflet de l'exposition permanente qui consacrait l'histoire des Juifs de France dans la Shoah.
Et est-ce que vous savez, Jacques Fredge, qui vient voir cette exposition permanente? Quel est le public le plus représentatif de ceux qui viennent voir cette exposition?
Alors en fait, je crois que c'est le public qui ne connaît pas le mémorial, qui vient voir cette exposition permanente, et les scolaires principalement. L'idée de créer cette exposition permanente, c'était véritablement de disposer d'un outil généraliste pour enseigner l'histoire de la Shoah. En étant bien entendu, et c'est ce que j'espère transparaître dans l'exposition et dans le livre, à savoir qu'on ne pouvait pas résumer l'histoire des Juifs de France à travers l'extermination, que 25% des Juifs de France avaient été déportés à Auschwitz, principalement, mais que 75% des Juifs de France avaient survécu, qu'ils avaient survécu grâce à eux d'abord, grâce à eux-mêmes, et enfin, grâce à la population française. Donc, c'est un outil généraliste, l'exposition, comme le livre, on y vient et on y revient, c'est-à-dire que c'est une exposition qui est extrêmement riche, extrêmement dense. Et ça a été d'ailleurs à l'origine de la difficulté de la réalisation de ce livre, à savoir que c'est une exposition et un livre sur le sort des Juifs de France, mais sur le plan historique, nous n'avons pas voulu escamoter le contexte de l'Europe. C'est-à-dire que difficile de justifier Vichy ou d'expliquer Vichy ou de parler de Vichy sans parler du contexte européen. Difficile de parler du nazisme sans parler d'antisémitisme en Europe. Donc on est remonté assez loin, et d'ailleurs l'exposition, comme le livre, commence par une séquence d'introduction qui a deux objets. La première, expliquer qu'il existe des Juifs en France depuis bien longtemps, que les Juifs ne sont pas arrivés comme des extraterrestres à la veille de la Seconde Guerre mondiale, comme certains visiteurs le croient lorsqu'ils arrivent dans cette exposition.
Oui, on est vraiment replacé dans la longue durée, on remonte jusqu'au Moyen-Âge.
Tout à fait, je crois que c'est important de, à la fois de montrer que les Juifs ont une histoire en France et en Europe, et en même temps que cette histoire, elle est faite de haut et de bas, et qu'il faut attendre la Révolution française pour que véritablement les Juifs de France aient acquis l'égalité des droits et qu'ils sortent de cet état, de ces ghettos où on les avait cantonnés, de ces interdictions professionnelles. C'est aussi l'occasion pour nous de rappeler que les nazis n'ont pas tout inventé. Et c'est l'occasion aussi pour nous de s'interroger sur, parmi toutes les questions qui se posent, que posent les visiteurs lorsqu'ils arrivent au mémorial, c'est comment on en est arrivé à la Shoah. Donc, pour nous, il est impossible de répondre à cette question. On peut évoquer des pistes de compréhension. Et parmi les pistes de compréhension, il est évident qu'il faut évoquer l'antisémitisme en Europe. Ces 20 siècles d'antijudaïsme, puis d'antisémitisme racial, cette évolution de l'antisémitisme en Europe, voilà, le terreau intellectuel, il a été forgé en Europe. Et on comprend, ou en tous les cas, on ressent tout à fait que l'antisémitisme a été tellement fort qu'on est passé à un moment des mots au meurtre. Et c'est un petit peu l'idée qu'on essaye d'exprimer à travers cet ouvrage et à travers cette exposition. Mais bien évidemment, je crois que dans l'exposition, comme dans le livre, on évoque des pistes. Il n'y a pas de message subliminal, il n'y a pas d'appel en disant d'incantation sur la mémoire, le souvenir, l'oubli. Je pense que ce sont véritablement deux constructions historiques, et à chacun de se faire son opinion, d'en tirer un enseignement, de réagir ou de réfléchir comme il l'entend.
Et vous parlez effectivement d'un désir pédagogique. Vous montrez dans le livre, dans l'exposition aussi, une multitude de destins individuels et donc une multiplicité de façons d'être juif en France. Et ça, c'était important aussi pour le public non-juif de comprendre ce que c'était que les mille facettes du judaïsme.
Voilà, ça fait partie des questions récurrentes. À un moment de la visite du mémorial, parmi les questions que les visiteurs osent poser lorsqu'ils osent poser ce type de questions, c'est « qu'est-ce que c'est qu'un juif ?» Alors nous, comme vous le savez, on est une institution spécialisée sur l'histoire de la Shoah, donc on reste dans notre environnement historique, mais quoi qu'il en soit, comme je le disais, après l'émancipation des Juifs, une fois qu'on a permis aux Juifs de sortir des ghettos et de sortir d'une définition religieuse, petit à petit, les Juifs ont donné une autre définition à leur judaïsme, et donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on comprend déjà qu'il existe toutes sortes de juifs, du bouddhiste au sioniste, du religieux au laïc, avec ce modèle particulièrement incompréhensible qu'on ne vit pas en France, qui est le modèle de l'israélite, où on est juif à la maison et français à l'extérieur, mais avec cette arrivée de juifs immigrés qui vient bouleverser la donne et bousculer un peu les israélites, puisque ces immigrés sont juifs 24 heures sur 24. Ils parlent une langue qui n'est pas forcément celle que les Israélites parlent régulièrement. Et donc, il y a tout d'un coup un autre modèle de judaïsme qui arrive dans l'entre-deux-guerres. Mais globalement, l'idée, c'est de faire ressortir de toute façon ce point commun qu'il y avait entre les juifs français et les juifs immigrés. À savoir que dans les deux cas, il y avait cette volonté d'être français, il y avait cette admiration pour la France, la patrie des droits de l'homme, la patrie aussi qui avait émancipé les juifs, puisque l'émancipation était née en France et elle avait essaimé dans toute l'Europe. Et ça, les juifs immigrés qui étaient venus en France dans l'entre-deux-guerres n'y venaient pas par dépit, mais ils venaient véritablement parce qu'il y avait cette lumière qui brillait. Et donc, on ne peut pas comprendre la réaction des Juifs de France en 40 et 41, au moment où il y a eu cette multiplication de textes de loi antisémites promulgués par les nazis ou par Vichy, On ne peut pas comprendre la réaction des Juifs de France si on ne comprend pas cette spécificité du judaïsme de France.
Oui, des Juifs immigrés qui se sont souvent engagés dans l'armée française.
Juifs immigrés qui se sont engagés, mais globalement, je crois qu'il y avait cette idée que la France, de toute façon, allait protéger les Juifs et que si la loi était antisémite, en tous les cas, pour la majorité des Juifs de France, c'est vrai en 40 et 41, ça a commencé à changer à partir des premières rafles de l'année 41, au moins parmi les Juifs immigrés, mais il y avait cette idée de dire il faut qu'on vive dans le cadre de la loi, même si la loi est antisémite, ce sera un mauvais moment passé, mais il faut absolument le passer.
Alors le livre revient aussi sur la question de la construction de la mémoire de la Shoah qui a émergé tardivement après-guerre, la question des procès de Nuremberg, le procès Eichmann, le procès Barbie, le rôle de ces procès jusqu'au discours de Chirac en 95.
Oui, l'idée c'est aussi tout en restant de manière très spécifique sur l'histoire de la Shoah, de bien faire comprendre le malentendu. C'est un mot très modeste que j'utilise, qui s'est créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui fait que à la fois on a eu une méconnaissance totale de la spécificité du crime qui a été commis contre les Juifs. Petit à petit, si cette connaissance a évolué, parallèlement à cela, il y a eu en effet une histoire, une fiction que se sont créés les différents pays d'Europe pour se reconstruire une virginité après la Seconde Guerre mondiale. Et pour la France, vous savez que le balancier a véritablement évolué, de tous les Français étaient des résistants, à tous les Français étaient des collabos. Quoi qu'il en soit, il aura fallu attendre la déclaration de Jacques Chirac. C'est important de bien faire comprendre que toute cette histoire a été longue, parce que sinon on ne peut pas comprendre ce retard que nous avons pris en France, si on ne comprend pas cette construction intellectuelle et historique de la mémoire de la Shoah, et que cette histoire a été aussi arrachée après une lutte menée par de nombreuses associations et par la communauté juive. C'est aussi la raison pour laquelle on dit toujours les témoins en parlaient mais ils n'ont pas été entendus. Il faut replacer aussi cela dans ce contexte et dans le contexte spécifique de la communauté juive qui au lendemain de la guerre doit reconstruire sa vie, reprendre une vie normale. Il faut retrouver les enfants qui ont été cachés dans toute la France. Le leadership a été déporté. Il y a véritablement des priorités très importantes dans la communauté juive de France, si bien que la création du mémorial du martyr juif inconnu à Paris, il faut le dire, lorsque l'idée est lancée dans les années 50 par Isaac Snerson, le fondateur, ça ne suscite pas un enthousiasme extraordinaire, parce qu'il y a d'autres priorités, parce qu'aussi nombre de personnes regardent vers l'avenir, et l'avenir c'est la création de l'État d'Israël. En plus de la reconstruction de la communauté, c'est la création de l'État d'Israël, et pas, une fois de plus, regarder vers le passé, vers un passé qui est un véritable trou noir dans l'histoire des Juifs en Europe et des Juifs de France. Donc c'est vrai que il faudra attendre 1995 en France pour que cette histoire véritablement soit intégrée à l'histoire de France, qu'elle soit enseignée normalement dans les établissements scolaires, qu'il soit possible de travailler dans les universités, qu'on commence à ouvrir les archives. Voilà, donc notre pays a eu du mal à digérer cette page d'histoire. Ce n'est pas que notre pays, c'est l'ensemble des pays européens. Et bien évidemment, ça renvoie à l'histoire de la Shoah, c'est-à-dire comment les nations se sont comportées pendant la Shoah, quelle a été leur attitude, qu'est-ce qu'ils savaient de la Shoah. Et au final, aujourd'hui, on voit bien que cette page d'histoire continue à hanter l'histoire de l'Europe et que l'Europe s'est construite sur les ruines d'Auschwitz.
Alors il faut évoquer, évidemment, c'est le cas dans ce livre, dans l'exposition permanente au mémorial, l'année 1942, qu'on va donc commémorer cette année, qui est à la fois donc l'année où les assassinats, les mises à mort ont été les plus nombreuses, et puis l'année aussi où la résistance juive se déploie.
Alors oui, nous avons, comme vous le disiez au début de cette émission, souhaité consacrer une saison mémorielle, toute une année entière à l'année 42, parce que l'année 42 est véritablement une année très importante. On sait aujourd'hui que les premiers massacres massifs ont commencé en Ukraine après l'opération Barbarossa, la rupture du pacte germano-soviétique, et que des commandos de tuerie ont avancé derrière l'armée allemande et ont massacré la population juive au fur et à mesure de l'avancée de l'armée allemande. On sait également que la décision de mise à mort des juifs d'Europe date de la deuxième partie de l'année 41, sans qu'on soit capable, vous savez qu'il y a discussion encore aujourd'hui parmi les historiens, est-ce que c'est l'été 41, est-ce que c'est l'automne 41, bon, globalement, on sait que c'est la deuxième partie de l'année 41, qu'il y a eu cette décision de passer d'un crime massif, mais artisanal et local, à un plan européen. C'est dans la deuxième partie de l'année 41. On sait également qu'en janvier 42, la conférence de Wannsee va orchestrer cette décision. La décision est prise en deuxième partie de l'année 41. Et janvier 42, à Wannsee, se réunissent différents dignitaires du parti nazi et des ministères pour orchestrer cette mise à mort. Et là, on va changer de méthode, on va changer de localisation, puisque on va amener des juifs de toute l'Europe vers des camps d'extermination qui vont être construits au printemps 42 et pour le camp d'Auschwitz-Birkenau, les installations de mise à mort vont fonctionner à partir de l'été 42. Et c'est vrai qu'il nous semblait fondamental de bien montrer ce basculement. Vous savez, quand on parle de la Shoah, on dit 33-45. Non, la Shoah, véritablement, c'est 41-42. À la fin de l'année 42, 60% des victimes sont déjà assassinées. Et comme vous le disiez au début de l'émission, 43 convois pour la France, sur environ 74 grands convois, on comprend que pour toute l'Europe, l'année 42 va être une année noire. Et avec cette spécificité qu'il va y avoir des juifs de toute l'Europe véritablement, donc c'est un plan européen avec des juifs qui ont certains ont réussi à s'échapper de France vers la Belgique, eh bien ils seront déportés de Belgique, les Hollandais qui ont réussi à passer en France seront, ou les Belges qui ont réussi à passer en France seront déportés depuis la France. C'est un événement véritablement transeuropéen et il y a des déportations de toute l'Europe. Il n'y a nulle part où aller. Les frontières sont définitivement fermées. Et c'est vrai que 42, pour la France, est une année aussi tout à fait particulière. Le premier convoi de juifs part le 27 mars 42 de Drancy et de Compiègne. Et puis après, toute une autre série de convois vont partir jusqu'en novembre 1942. Mais l'année 42, c'est l'année où on impose fin mai, début juin, le port de l'étoile jaune. Ça va provoquer la première réaction de la population française, parce qu'il faut tout de même souligner que 40, 41, y compris les trois rafles de l'année 41, 42, vont pas susciter une grande émotion dans la population française, y compris le statut des juifs, l'exclusion, etc. Voilà, il faut vraiment attendre. Un, le port de l'étoile jaune. Tout d'un coup, les Parisiens voient des hommes, des femmes, des enfants de plus de 6 ans porter cette étoile jaune. Et là, sous leurs yeux, les Parisiens vont avoir un haut-le-cœur. Et puis, la deuxième prise de conscience sera constituée par la rafle du Vélodrome d'hiver, où près de 13 000 personnes sont arrêtées le 16 et 17 juillet, en plein jour. Et là, en 41, on a arrêté des hommes, et tout d'un coup, en 42, on arrête dans les rues de Paris des hommes, des femmes, des enfants. Donc la fiction de dire on envoie les hommes, on envoie ces gens pour les exclure, ce n'est pas seulement ça, il y a d'autres choses derrière. Et là, en effet, il y a une réaction de la population française et bien évidemment une mobilisation très importante des organisations juives parce qu'on prend conscience là aussi que le pronostic vital, pour utiliser le terme contemporain, de la communauté juive est véritablement engagé en France et en Europe.
Alors, vous avez évoqué ce premier convoi parti le 27 mars à Drancy et à Compiègne. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler, Jacques Fretsch, des commémorations que vous allez organiser autour des départs de ces convois, des départs de chacun de ces convois?
Oui, alors, en effet, nous avons souhaité, il faut le dire, reprendre une initiative qui avait été lancée il y a une dizaine d'années par les fils et filles des déportés juifs de France. Et donc avec les fils et filles des déportés juifs de France, nous avons souhaité commémorer le départ des convois de l'année 42. Et donc nous organiserons une cérémonie pour chacun des convois partis en 1942. Donc cérémonies qui se dérouleront le 27 mars à Drancy et à Compiègne. Et puis après, à Pithiviers, Beaune-la-Rolande et à Paris, pour l'ensemble des autres convois, avec une spécificité, c'est-à-dire que il y a un convoi qui est parti d'Angers, nous ferons une cérémonie à Angers, et puis nous marquerons aussi les rafles de zones occupées par une cérémonie qui se déroulera au mois de septembre à Toulouse. Donc on aura en effet 43 cérémonies qui vont se dérouler tout au long de l'année 2012, avec à chaque fois véritablement une cérémonie assez sobre, puisqu'il y aura simplement la récitation des noms des déportés de chacun des convois. Et donc j'invite les auditeurs qui ont envie de participer à la cérémonie à se faire connaître, puisque le 27 mars nous allons, en partenariat avec le secrétariat d'État aux anciens combattants, organiser cette cérémonie. Nous partirons en bus depuis Paris et nous marquerons une halte à Drancy, puis nous irons à Compiègne. Donc celles et ceux qui sont intéressés, je vous invite à contacter le mémorial de la Shoah.
Alors il y aura aussi, pour commémorer cette année 42, l'inauguration d'un centre d'histoire et de mémoire à Drancy.
Oui, alors ça c'est une initiative de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui, parmi ses priorités lorsque la Fondation est née, avait souhaité construire un lieu d'histoire face à l'ancien camp de la cité de la Muette. Vous savez que pendant de très très longues années, la question de la cité de la Muette avait été évoquée. Certains avaient même donné l'idée de créer un musée dans la cité de la Muette, c'est-à-dire de proposer aux habitants de quitter la cité de la Muette et de construire un énorme musée à la place. Et je crois que la solution raisonnable qui a été trouvée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah a été d'acquérir un terrain qui est situé juste en face, avec l'aide de la mairie de Drancy. Et une fois que la Fondation a fait ce choix, elle s'est tournée vers le mémorial pour lui demander d'y créer un musée et d'en faire une annexe du mémorial. Donc c'est à l'initiative de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Les travaux sont financés par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et le lieu va être animé par le mémorial. Et l'idée, c'est en effet de créer une exposition qui sera complémentaire de celle du mémorial à Paris, puisque nous y créerons une exposition sur l'histoire du camp de Drancy. Et principalement, selon les vœux de la Fondation, nous allons cibler les scolaires et faire en sorte que ce lieu soit principalement destiné aux scolaires. Et donc il y aura des salles pédagogiques, un centre de documentation, un lieu d'accueil pour y faire travailler les scolaires qui y viendront nombreux, nous en sommes certains.
Alors je signale aussi l'exposition consacrée aux enfants dans la Shoah qui sera inaugurée en mai au mémorial. J'imagine qu'on peut retrouver toute la programmation de cette année de commémoration sur le site du mémorial. Merci encore Jacques Fretsch. Je rappelle que vous donc dirigez le mémorial de la Shoah et que vous êtes l'auteur du livre paru chez Gallimard, Les Juifs de France dans la Shoah.
Merci.
C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Deux adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur internet, www.radio-rcj.info. Le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.